Bonjour mes bien-aimés en Christ. Que la paix et l'abondante grâce de Dieu soient avec vous. En ce jour encore, en ce jour aussi, au nom de notre Seigneur Jésus. C'est toujours avec un grand plaisir que je viens par le biais de ces messages m'entretenir avec vous. Sous la conduite du Saint-Esprit, notre paraclet. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec plaisir que je m'apprête à laisser libérer au travers de moi ce message sur l'œuvre de la croix. Parce que le processus de la croix, ce qui s'est passé à la croix avec notre Seigneur Jésus, est vraiment le fondement même de notre vie spirituelle. Amen. J'ai l'habitude de dire que je présente le message, c'est vrai. Mais pendant que je le travaille, pendant que je le libère, ça me nourrit moi-même. Vraiment, je prie pour que vos cœurs soient disposés pour recevoir vraiment la révélation de la puissance qui se dégage de la croix de notre Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Sans ta conduite, sans ta présence, sans toi au contrôle, je ne suis qu'une cymbale vide. Viens et prends contrôle de ton temple et libère la vie pour le peuple que le Seigneur a. Que tout glorifie l'Éternel Dieu notre Père et que le nom de notre Seigneur soit glorifié tout le long de cet enseignement encore et tout le long même de nos actes. Je prends autorité au nom puissant de mon Seigneur Jésus. Et je chasse tout esprit contraire qui s'oppose à la connaissance du Père. Ici, maintenant. Et je soumets à l'obéissance de Christ toute pensée captive. Que les forteresses et les hauteurs soient aplanies maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je chasse tout esprit impur qui veut obstruer les canaux de réception. Alléluia. Je les chasse dans les déserts rides. Alléluia. Je commande un esprit d'écoute, un esprit de bien disposé, un cœur bien préparé. Alléluia. J'appelle un esprit d'ouverture, un esprit enseignable. Alléluia. Et je chasse tout esprit de confusion, tout esprit d'erreur, tout esprit de distraction, tout esprit de trouble. Amen, je les chasse loin de nos terreaux, loin de cette sphère de formation, au nom puissant de Jésus. J'espère, je le sens du Christ sur nous tous. Alléluia, gloire te soit rendue au Père éternel. Bénis ce moment encore. Tu dis là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, tu es au milieu de nous. Nous accueillons ta présence manifeste. Oh Dieu de gloire, Papa, avec joie et enthousiasme, dans l'humilité, Seigneur Dieu Père de puissant, dans l'acclamation au Père éternel, dans l'exaltation qui t'est due. Amen. Tu es le Mighty God. Gloire, gloire te soit donnée. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de tout. Nous te soumettons nos volontés. Conduis selon l'agréabilité de Père en toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Mes frères, mes sœurs, que s'est-il réellement passé à la croix du calvaire, sur le mont Golgothé, il y a plus de 2000 ans, quand notre Seigneur, aux yeux des hommes, nommé Jésus de Nazareth, a subi ce qu'il a subi à la croix du calvaire, et qui a fini en disant tout est accompli. Oh God, que s'est-il vraiment passé? À travers de ce message de l'œuvre à la croix, nous allons tenter de parcourir un peu cela, d'essayer de comprendre au-delà des mots, au-delà de ce que nous avons appris ça et là. Essayons de passer à un autre niveau. Essayons de regarder au-delà des mots, de demander à notre Saint-Esprit de nous élargir, de nous faire voir au-delà de ce que le simple voit. Nous demandons la révélation de la parole de Dieu, celle qui rend intelligent même les simples. Considérons-nous comme des simples aujourd'hui, mais que nous désirons l'intelligence divine. Alléluia. Parce que nous voulons saisir vraiment encore davantage la puissance qui est libérée à la croix de, dans la croix de Golgotha, à la mort de notre Seigneur Jésus. Amen. Quand nous avons commencé ces messages, nous avons commencé par comprendre le plan de Père pour sa création. Nous avons passé plusieurs séances de d'enseignement là-dessus. Nous avons compris que le plan de Père était sa volonté. C'était le plan de Jéhovah, qui était celui d'étendre le royaume des cieux en créant la terre, et parce qu'il venait, il voulait venir régner sur la terre comme dans les cieux. Et nous avons aussi compris le plan de Dieu Elohim, celui qui était le désir de son cœur, l'expression de son amour, qui était de faire des hommes son peuple et de lui-même être leur Dieu, être pour les hommes celui qu'ils aiment, celui qu'ils adorent, celui devant lequel ils se prosternent, celui de qui ils attendent tout, celui de qui ils ont crainte et celui qu'ils servent. Nous avons vu les deux dimensions, ces deux dimensions d'attente qui étaient caractérisaient le plan de Père pour sa création. Le Saint-Esprit nous a amenés à comprendre ce qu'était le royaume des cieux. Ça nous a pris plusieurs semaines aussi, alléluia. Nous avons été richement bénis par ces messages. Le royaume des cieux que les prophètes ont annoncé depuis, que l'apôtre Jean, que le prophète Jean-Baptiste est venu vraiment clamer, annoncer et préparer les gens pour pouvoir y avoir accès. Et que notre Seigneur Jésus lui-même est venu le manifester au milieu de nous. Parce que les œuvres que notre Seigneur Jésus manifestait pendant son ministère terrestre, il nous montrait la dimension du royaume des cieux. Et en allant à la croix du calvaire, il nous a invités à entrer dans ce royaume. Nous avons déjà vu ces deux étapes. Mais pour que nous puissions entrer dans ce royaume, pour nous donner la possibilité et l'opportunité d'entrer dans ce royaume, Jésus-Christ avait, de la part de son Père, de la part de Dieu, une mission spéciale à accomplir. Une œuvre divine ordonnée par le Père. C'était l'acte de sacrifice suprême et ultime pour la rédemption de l'homme. Et cet acte devait être accompli afin que nous puissions entrer dans le royaume des cieux et permettre donc l'accomplissement du plan de Père qui était celui de venir régner. Alléluia. Ce plan de sauver la créature et le ramener à lui, ce plan qui a trouvé vraiment son expression, son accomplissement à la croix du calvaire, date de depuis l'origine, date de depuis le jardin d'Éden. Nous l'avons vu quand on étudiait le plan, date de depuis le jardin d'Éden. C'était un accomplissement parce que ça avait commencé depuis l'origine. Quand on étudiait le plan de Dieu pour la création, je vous ai dit que quand Adam et Ève avaient péché, quand ils avaient succombé à la tentation de l'ennemi, de Satan, et qu'ils avaient péché, on les avait sortis du chassés du désert. Et ils ont occupé le reste de la terre qui n'était pas façonnée comme le jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden était l'image, était le modèle de la terre que Dieu voulait nous donner. Mais Dieu ne les a pas laissés partir comme ça. Dieu avait en lui de pouvoir rattraper la situation. Et il a fait dans le jardin d'Éden l'acte du premier sacrifice. Il a sacrifié un agneau et il a couvert par le sang, par les peaux, il a rhabillé Adam et Ève avec les peaux de bête ensanglantées. Parce que, comme nous le verrons un peu plus en détail plus tard, La vie, il y a de la vie dans le sang. Dans la création de Dieu, il a mis la vie dans le sang. Il y a de la vie dans le sang. Mais à ce moment-là, il pouvait protéger l'homme et la femme, Adam et Ève, sa création, que par le sang d'animal. Donc par la vie de l'animal, il l'a sacrifié et il l'a mis sur eux. Mais l'animal n'a pas été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'animal n'a pas reçu le souffle divin. L'animal n'est pas la création de Dieu qui avait sa préférence. C'est l'homme qui avait la préférence de Dieu. C'est l'homme que Dieu a voulu établir sur la terre et voulait venir collaborer, s'unir avec lui pour régner. Mais il avait aussi soufflé, vous vous souvenez, soufflé dans les animaux. Et il a protégé l'homme avec ça. Mais c'était une protection de petite nature. Et c'est pour ça que c'était un acte qui devait être répétitif. C'était un acte qui devait se répéter quotidiennement. D'où les sacrifices d'animaux en sacrifices d'animaux, de sacrifices d'animaux en sacrifices d'animaux, pour pouvoir préserver cette protection précaire. Alléluia. Mais c'était déjà le plan de Dieu. Et ça s'est poursuivi comme ça, de génération en génération, de génération en génération, jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Figurez-vous que même quand Moïse arrive avec la loi, on ne fait pas, c'est pas le premier sacrifice qu'on est en train de faire. Caïn et Abel, on a une histoire déjà. Et même quand toute la création a été détruite par le déluge, Noé, quand il est sorti de l'arche, la première chose a été de faire un sacrifice. Vous vous souvenez? Ça veut dire que Noé était déjà habitué à cet acte. On n'a pas eu à réexpliquer à Noé. Les hommes le pratiquaient déjà. Alléluia. Mais cette protection était petite, faible. Elle était transitoire, temporaire. Et il fallait que des choses se passent. Et il fallait, comme avec Dieu, le temps. Il est le maître du temps, des circonstances. Le temps joue des choses. Les choses doivent être prophétiquement établies dans ce que Dieu fait. Donc il y avait un temps qui devait arriver pour que la protection totale, terminale arrive, soit programmé et se passe exactement comme Dieu le voulait. Il y avait aussi au cours de ce processus des choses qui devaient se mettre en route. Ce qui est particulier, c'est que Satan, vous savez, je vous ai déjà expliqué que Satan c'était Lucifer et c'était l'ange le plus gradé au niveau des cieux. Il était au courant de beaucoup de choses, notamment même le plan de Dieu pour sa création, puisque Dieu les a pris pour partenaires. C'est tout le royaume des cieux qui devait être impliqué dans la création de la terre. Il leur avait dit beaucoup de choses et ça a même suscité leur jalousie. Ça a suscité la jalousie de Lucifer, qui s'est mis en rébellion. Il a fomenté ce coup d'état là pour pouvoir régner dans les cieux, donc ne même pas voir créer l'homme, etc. Et ils ont raté leur rébellion. Qui peut se rebeller contre Dieu et vaincre? Et il a été chassé des cieux et est parti avec ses acolytes. Mais il s'est juré, lui, ayant perdu toute sa gloire, ayant perdu tout l'esprit de Dieu qui était sur lui, la lumière divine qui lui était accordée, de se venger. Je vous ai déjà dit que Dieu ne se repent pas de ses bons, c'est la Bible qui nous dit ça. Donc, toutes les capacités qui étaient données à Lucifer, toutes ses attitudes, il est resté avec. Donc, c'est une création qui est capable de faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais seulement il n'a plus la lumière de Christ. Il n'a plus l'Esprit de Dieu en lui. Et la différence, et ce qui se passe, c'est que il savait tout ce que Dieu avait prévu pour l'homme. Il le sait, ça. Et c'est le plan que Dieu voulait mettre dans l'homme. Et l'amitié et le désir de relation intime que Dieu voulait entretenir avec l'homme. Et ça, il le combat tous les jours. Mais ce qu'il ne sait pas, après être parti du ciel, ce qu'il ne sait pas, c'est ce que le propre conseil de Dieu a défini de faire pour protéger l'homme. Ça, il n'était plus dans les cieux, donc il peut pas. Il ne peut plus le savoir. Tout ce que Dieu a défini par la suite pour protéger l'homme, il ne sait pas. Toute la gloire que Dieu a tout le processus que Dieu avait mis en place pour arriver au plan, à ce plan de salut-là, il l'ignore en fait. Il sait détecter la manifestation de l'onction en chacun de nous, puisque il en sait quelque chose. Mais pour qu'il agisse, il faut qu'il voie déjà le début de la manifestation de l'onction. C'est ainsi que il se rapproche des enfants de Dieu qui manifestent quelque chose pour essayer de les induire en erreur. Mais il est incapable de détecter en fait vraiment ce qui est encore divin et ce qui est différent. C'est ainsi que quand Jésus-Christ, notre Seigneur, arrive, est né, les gens en parlent, les Écritures en parlent, les prophéties en parlent. On sait qu'on attend un roi. Et les gens le cherchent. Même Hérode, un homme jaloux, tout simplement, a entendu qu'un roi devait arriver dans le territoire sur lequel il régnait. Et ce roi-là, les gens avaient était dans son attente. Ce que l'on disait de la venue du roi, comment, était inquiétant pour quelqu'un qui gouvernait. C'est pour ça qu'il a entrepris de tuer tous les enfants d'un certain âge, en se disant, mais je ne veux pas prendre de risque. Je vais les tuer tous à petit âge. Je ne veux pas prendre de risque qu'un roi se lève là et vienne me déboussoler. C'est Rome, c'est l'homme et la chair qui a peur. Mais même le règne de Satan était dans l'incapacité de reconnaître Christ, Dieu fait homme. Il était dans l'incapacité de le reconnaître en tant que tel. Quand Jésus est né et quand Jésus a grandi et quand Jésus manifestait les œuvres du royaume, ce qui était vu et perçu de sa part, et c'est ce qu'il mettait dans l'esprit des pharisiens, c'était un grand prophète. Tout simplement, on avait vu d'autres hommes, on avait vu les Isaïe, on avait vu même les Jean-Baptiste qui faisaient des choses vraiment divinement inspirées, on avait vu plein d'autres. Donc pour eux, c'était un autre grand prophète, parce que la dimension divine de Christ, ils ne pouvaient pas la percevoir. Dieu s'est fait homme et il est venu au milieu d'eux. Amen. Ce que je vous donne comme explication là est important, car nous allons aborder ça plus tard. Amen. Et nous voyons que dans la Bible, quand on fait référence à la croix, à l'œuvre à la croix de Jésus, ça amène à côtoyer certains mots, certaines expressions qui ont leur profondeur. Des mots comme rédemption, rédempteur, salut, payer la rançon, être racheté, réconcilier à père, manger la chair, boire le sang de Jésus, le sang de l'alliance, perdre sa vie pour vivre, triompher de la mort et du péché, se couvrir de nos péchés, se charger de nos iniquités, descendre aux enfers, passer de la mort à la vie, porter sa croix et suivre. Toutes ces notions s'attachent à l'œuvre à la croix de Dieu. Même mes frères, mes sœurs, je vous ai toujours dit, en tout cas moi, c'est ce qui m'anime, c'est que ne soyons pas des répétiteurs seulement de la parole de Dieu. Ne récitons pas seulement des versets parce que nous les avons bien retenus. Parce que quand on récite sans avoir compris, sans être allé prendre la quintessence et de pouvoir jouir vraiment de l'impact de ça dans nos vies, nous sommes que des réciteurs. Mais soyons des proclameurs de la parole de Dieu. Parce qu'une proclamation implique une compréhension de la parole de Dieu. Une proclamation implique une possession de cette parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui révèle qui reflète la dimension de la révélation. Cherchons la révélation. C'est notre Saint-Esprit qui a pour rôle de nous révéler la parole de Dieu. Mais nous devons avoir le désir d'avoir cette révélation. Nous devons la lui demander, commander. Nous voulons la révélation de cette parole, de ces mots. Nous voulons les comprendre à une autre portée. Amen. Et le Saint-Esprit le fait. Je vais partager avec vous, moi, ce que j'ai reçu en parcourant cette œuvre de la croix, en étudiant diverses notions. Je vais essayer, Saint-Esprit de Dieu, oui, va pouvoir le libérer au travers de moi, que nous ayons ensemble le sens, un sens encore plus profond de ces mots. Amen. Le premier aspect de ces mots, c'est celui de rédemption et rédempteur. Parce que il y a des mots qui ne se sont dit que dans le Nouveau Testament, parce que c'est rattaché vraiment au moment de Christ. Mais il y a des mots qui se sont dit tout le long de la Bible. Je vous disais que le plan de rachat de Dieu date de depuis le jardin d'Éden. C'est comme le mot rédempteur. C'est un mot qui est beaucoup utilisé dans l'Ancien Testament aussi. C'est un mot que le prophète Ésaïe a utilisé énormément. Et nous savons que le prophète Ésaïe, c'est le prophète messianique. C'est au travers de sa bouche que l'Éternel a libéré la prophétie de la venue du Messie. C'est à travers de la bouche du prophète Ésaïe que la perspective du salut d'un sauveur qui viendra et qui libérera est sortie, nous le savons tous. Et le mot rédempteur est beaucoup sorti aussi dans les psaumes de David aussi, même dans les gémissements de Job, beaucoup. Mon Dieu est mon rédempteur. Mon Dieu est mon rédempteur. Mon rédempteur est le Saint d'Israël. Alléluia. Rédempteur et rédemption, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? C'est un terme que l'on traduit comme étant un acte de libération. Une rédemption est un acte de libération qui est effectué suite à un paiement d'une rançon. Et la rançon, c'est le prix que l'on paye à quelqu'un pour récupérer ce qui est à toi. Le mot rançon s'utilise quand on fait des enlèvements, par exemple. Je te dépossède de quelque chose qui est à toi. Désormais, je prends et j'exerce dessus ma force de rétention. Et pour que toi, tu puisses le récupérer, tu dois me payer une rançon. Tu dois payer un prix que je t'exige pour récupérer ce qui est à toi. C'est important de comprendre cette nuance pour comprendre l'œuvre à la croix. Un acte de libération effectué suite au paiement d'une rançon. C'est ça une rédemption. C'est ça l'acte de rédemption. Quand on dit que Dieu est mon rédempteur, ça veut dire que Dieu, non seulement tu lui appartenais, mais quelqu'un se l'est pris de force. Et c'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Satan a pris la créature de Dieu de force en trompant Adam et Ève. Et en les poussant à la désobéissance, il les a fait se déconnecter de l'encre de Père, de Dieu, pour passer sous sa coupe. Et dès lors, Dieu a voulu les libérer. Dieu a voulu les récupérer. Mais pour les récupérer, il faut qu'ils payent une rançon pour les récupérer. Vous comprendrez pourquoi il est nécessaire de payer une rançon pour récupérer. Parce qu'il y a une puissance dans le paiement de la rançon. Parce que si Dieu utilise aussi la force pour aller les récupérer, la vie et la puissance qui est rattachée à l'acte de paiement de la rançon ne se fera pas. On va y revenir. Que l'Esprit de Dieu dispose vos cœurs à l'entendement. C'est important. Donc, depuis l'Ancien Testament, les hommes reconnaissent en Dieu le Rédempteur. Ils savent qu'il y a un acte de rédemption en cours. Et Dieu a été ce Rédempteur-là. Pourquoi? Parce que depuis le Jardin d'Éden, je vous ai dit, il a sacrifié la première bête pour les couvrir du sang. Pour maintenir un semblant de vie en eux. Même comme ils étaient déjà happés par la mort. Et tout le long de la Bible, il y a eu ces sacrifices. Et la forme de sacrifice a évolué d'un cran à un autre moment de libération. Nous allons y revenir. L'acte de rédemption, je disais ici, comporte la délivrance, comporte le fait qu'on quitte son propriétaire fictif. On quitte son geôlier, on quitte celui qui te maintenait avec lui contre nature, parce que tu ne lui appartenais pas. La rédemption, c'est aussi l'exécution d'un droit de rachat. Quand on dit qu'il y a une rédemption, c'est qu'on est en train d'exécuter un droit de rachat. Nous avons parlé de rançon, nous parlons du droit de rachat. Oh mes frères et mes sœurs. Le droit de rachat, je vais vous expliquer. La parole de Dieu en parle clairement. Lors pour Ruth, la Moabite, qui était mariée au fils de Noémie. Le fils de Noémie était du peuple de Dieu. Et il est décédé. Et il a laissé son épouse. Ruth a estimé que étant déjà mariée chez Noémie, elle n'avait plus à rentrer chez elle, ce qui est légitime. Elle a dit à Noémie, Noémie a dit, je n'ai plus d'homme à vous donner, vraiment, je vous libère. Noémie était prête à les libérer, à les refaire vos vies. Et Ruth a dit non. Ruth a dit, comme je suis entrée dans ta maison, je reste. Et Ruth a dit quelque chose. Ruth a dit, ton Dieu là, que tu sers, sera mon Dieu, ta famille sera ma famille, j'y suis, j'y reste. Et Noémie l'a ramenée dans sa famille à elle, comme une veuve éplorée et comme une mère qui a perdu des enfants, une esselée, une dépouillée. Elle est rentrée comme ça dans sa maison et elle a amené avec elle Ruth. La parole de Dieu, la loi de Dieu, la loi sociétale de Dieu, que Dieu avait donnée à son peuple, définissait le droit de rachat. Ça veut dire que dans une famille, quand un fils meurt, l'autre fils, son frère, a même le devoir de prendre pour épouse la femme du frère, parce qu'il faut pour la femme et les enfants une couverture, quelqu'un qui doit s'en occuper. Alléluia. Noémie n'ayant plus, ayant perdu ses deux fils, Noémie n'ayant plus de garçons, c'est pour ça qu'elle veut, elle veut libérer les Ruth et l'autre, son autre belle-fille. L'autre belle-fille, elle est partie, mais Ruth, elle est restée. La parole de Dieu continue à dire que s'il n'y a plus de fils direct, dans la famille, on a le droit de le faire. Dans la famille, on a le droit de le faire. Et c'est ce droit de le faire avant quiconque qui vient de l'extérieur. Ça se passe d'abord dans la famille avant qu'un intéressé de l'extérieur puisse venir. Si quelqu'un veut venir de l'extérieur pour épouser cette fille qui est veuve, il doit d'abord regarder S'il n'y a personne dans la famille qui peut prendre ça. Amen. Et Boaz, c'est un ce droit de rachat. Donc, il s'avère que Boaz, qui était pas très proche, qui était de la famille, mais un peu un cousin éloigné, a d'abord regardé et demandé autour de ceux de la famille qui étaient proches si personne ne voulait prendre Ruth comme épouse. Et comme personne ne s'est manifesté, lui, il a exercé son droit de rachat pour prendre pour épouse Ruth. Et quand on sait que Ruth, aujourd'hui, fait partie de la lignée qui a conçu Jésus, on dit « Glory, 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 glory ». Mais c'était un droit de rachat, c'est de ça que je voulais parler. Et on dit que la rédemption est aussi l'exécution d'un droit de rachat. C'est-à-dire quelque chose qui, à l'origine, pouvait t'appartenir, mais que quelqu'un d'autre avait pris. Tu as la possibilité de reprendre. C'est un droit légal dans la parole de Dieu. Et l'acte de rédemption, là, l'exécution de ce droit de rachat, là, Dieu en a usé. Satan est venu prendre quelque chose qui était à lui par ruse. Mais Dieu s'est gardé le droit de son rachat. Dieu s'est gardé le droit de racheter sa création. Oh my God! Comprenez ça, dans le droit de rachat et le paiement de la rançon. Ce sont des actes spirituels qui étaient inscrits comme ça dans la justice de Dieu. Amen. Que Dieu a utilisé. Mais pour exercer ce droit de rachat, pour exécuter ce droit de rachat et pour exécuter cette libération par paiement de la rançon, il a fallu du temps. Alléluia. Le temps où le Seigneur disposait les choses. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de récupérer l'homme et la femme, Adam et Ève et sa descendance. Il ne s'agissait pas seulement de ça. Il s'agissait que Dieu a d'autres lois. La loi de sa pureté, la loi de sa sainteté. La loi de la sanctification venir avec lui. Sur lequel il ne peut pas ériger. Le royaume de Dieu est un royaume de justice. Il a ses règles de justice contre lesquelles lui-même il ne peut pas déroger. Donc il fallait aussi le temps pour que ces choses se mettent en place. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de reprendre Adam et Ève. Ils étaient souillés. Et ce qui est souillé n'est plus sain. Et si c'est plus sain, ça ne peut pas se rapprocher de Dieu. Donc il fallait en même temps que l'on doit exécuter une libération, en même temps que l'on doit exécuter un droit de rachat, il faudra s'assurer que cela puisse englober les lois de sainteté, les lois de pureté, les lois de sanctification, toutes ces lois-là. Et que le Seigneur reprenne quelque chose qui est saint pour pouvoir être réconcilié à lui. Amen. Gloire à Dieu. Et ce qui se passe dans le paiement de la rançon et l'exécution du droit de rachat, ça implique une libération totale. Ce processus-là entraîne une libération totale. Je récupère ce qui est à moi, mais entièrement, avec un effaçage de passé. C'est ce que l'on appelle une remission des péchés. L'acte de rédemption entraîne ça aussi. C'est ce que je vous disais, la loi de pureté, la loi doivent jouer de façon à ce que ce qui revient à Dieu soit comme à l'état d'origine. Alléluia. Soit comme à l'état d'origine et ne souffre plus d'aucune empreinte laissée par le kidnappeur. Et ne souffre plus d'aucune empreinte laissée par le faux propriétaire. Amen. Et c'est ce processus-là qui a connu son terme, son apothéose à la croix de Golgotha. Lorsque l'apôtre Paul explique ça aux Éphésiens, aux Corinthiens, aux Romains, selon la grâce qui lui a été donnée par Jésus-Christ d'enseigner l'évangile, et il nous dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, dans Éphésiens 1, 7. Dans 1 Corinthiens 15, 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Aux Romains, ils disent qu'ils sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le moyen de la rédemption, c'est l'objet, c'est la monnaie d'échange de cette rédemption, de l'acte de libération, de l'acte d'exécution du droit d'achat. C'était Christ lui-même. Alléluia. Et Esaïe disait déjà, bien avant que cet acte se pose, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Dans Ésaïe 47, 4. Pourquoi? Parce que même au peuple, à partir de Moïse, quand il a donné sa loi, Dieu leur a vraiment démontré l'acte de rédemption qu'ils mettaient sur leur vie tous les jours. Ils savaient que les sacrifices qu'ils faisaient tous les jours avec l'agneau étaient un acte salvateur. C'était un acte pour leur rédemption. Qu'ils essayaient comme ça quotidiennement d'effacer leurs péchés et d'être maintenus en vie malgré le fait que la mort que leur insufflait Satan depuis le péché d'Adam courait toujours. Amen. Dieu, dans son processus de rédemption, fait intervenir un autre niveau. Lorsque le peuple de Dieu est allé en esclavage en Égypte pendant 400 ans, et qu'après ces 400 ans, il avait promis qu'il les libérerait, et que les cris des enfants l'a rappelé à mettre en processus le plan de leur libération des griffes de l'esclavage de Pharaon. Il faut se dire une chose, c'est que le peuple étant en esclavage ne vivait plus vraiment aisément la communion avec leur Dieu. Il était même soumis quelque peu à suivre les dictats des dieux pharaon. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc il y avait on peut dire une plus grande déconnexion avec le peuple en esclavage que lorsqu'ils se retrouvent entre eux et qu'ils sont interpellés à mettre en pratique les œuvres de Dieu. Et Dieu fait quelque chose. Dieu délivre son peuple et cette fois-ci, il veut aller beaucoup plus loin avec le peuple. Il veut vraiment se constituer un peuple, une armée avec laquelle il va aller loin. Parce que c'est avec Moïse qu'il établit un peuple vraiment à lui. Un peuple qui doit être son peuple et lui leur Dieu. Il entreprend à ce moment de passer vraiment. Parce que jusque-là, la Bible nous parle d'Abraham, la Bible nous parle d'Isaac, la Bible nous parle de Jacob, la Bible nous parle des tribus, des 12 enfants de Jacob, mais pas véritablement encore de tribus. Et là nous sommes à Joseph, et de Joseph on passe à l'esclavage. Donc il n'y a pas encore vraiment une ossature de tribu véritablement. Joseph a déjà ses 12 enfants qui sont grands, les Ruben, les Simon, les Lévi et tout, dans le coin de la Bible. C'est parce que c'est avec Moïse qu'on établit vraiment règle des tribus et des autres, que le Seigneur organise son peuple. Il ne faut pas perdre ça de vue. Donc jusqu'à là, la relation avec Dieu était individuel. Ça veut dire il y avait une relation Abraham-Dieu. Ensuite, une relation Isaac avec le Dieu de son père. Ensuite, Jacob avait le Dieu de ses pères, Abraham et Isaac. Jusqu'à ce qu'il soit Israël, qu'il prenne les 12 enfants, et que de là sorte Joseph, qui va dans sa destinée en Égypte, en vue de pouvoir servir de pont pour prendre Jacob et toute sa tribu pour les amener en Égypte au temps de la famine. Mais c'était un processus qui devait arriver, puisque l'esclavage là avait été prévu depuis le temps d'Abraham. Le peuple qui devait aller en esclavage s'était déjà arrêté. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, ils sont allés en esclavage, ils ont passé les 400 ans. Mais vient maintenant un autre niveau de rédemption, un temps de rédemption. C'est toujours dans le plan de Dieu. Et nous connaissons l'histoire de Moïse, qui a dû partir en fuyant à 40 ans de l'Égypte, s'est retrouvé chez Madian, a épousé la fille de Madian, a fait une vie pendant 40 ans, et un matin, en allant paître le troupeau, comme il avait l'habitude de le faire, il a croisé Dieu. Il a croisé le buisson ardent. Et Dieu lui a dit, voici venu le jour où tu dois aller faire ce pour quoi je t'ai préparé. Alléluia. Donc, quand Moïse revient donc pour délivrer le peuple en Égypte, il n'a qu'un seul message. Libère mon peuple. Libère le peuple de Dieu afin qu'il aille adorer l'Éternel dans le désert. Voilà le but pour lequel il prend. Et quand finalement, après les 10 plaies et tout ça, le peuple de Dieu est délivré, la parole de Dieu nous dit que l'on présente ce peuple, c'était pourtant des fatigués, des vieillards, des gens ayant des enfants qui couraient des femmes, et il l'a préparé comme une armée. Il a dit, voilà mon armée qui est debout. Alléluia. Voilà mon armée qui est debout. Et ils vont aller dans le désert pour me louer. Et il les a fait prendre le détour, au lieu de les faire traverser les Philistins, qui était le chemin le plus court pour arriver à Canaan, qui était leur destination. Il a dit, ils sont tellement fragiles, ils sont tellement que si sortis de l'esclavage, je les oppose directement à une guerre, ils vont même fuir pour rentrer chez Pharaon. Je les fais prendre un détour par le désert, ça sera un peu plus long, mais ce sera au moins l'occasion où je serai en face à face avec eux et où je vais leur apprendre qui ils sont pour moi et qui je suis pour eux. Où je voudrais qu'on tisse ces rapports pour qu'ils soient mon peuple et moi leur Dieu. Voilà le but de Dieu quand il traverse le désert, avant qu'il n'arrive à Canaan, là où je vais les établir. Parce que la destination de Canaan aussi avait été prise depuis la malédiction du fils de Cham. Rappelez-vous, avec Noé. C'est lui qui avait vu la nudité. Il avait un fils qui s'appelait Canaan, un de ses derniers enfants. Et la malédiction du père est tombée sur le dernier. Et lui, il est devenu l'esclave des esclaves. Et il n'était en droit de rien posséder. Ça encore, c'est un autre chapitre. On peut ouvrir plus tard. Continuons sur notre rédemption. Il se passe donc quelque chose dans le désert. Au dernier jour, à la 10e plaie, il se passe quelque chose. Dieu passe à un autre niveau. Le sacrifice d'agneau prend une autre considération, prend un autre statut avec Dieu. C'est celui de l'instauration de la Pâque. L'instauration de la Pâque. Et cette instauration de la Pâque, c'est un processus. Dieu change la date à laquelle désormais son peuple doit considérer le commencement de toute chose. Et il leur donne tout un processus pour le 14e jour du mois, qui correspond au jour où il demande à Moïse d'instruire son peuple sur un acte qui doit les protéger. Parce qu'il a décidé, l'Éternel, de sévir fermement contre Pharaon et le peuple et les dieux de Pharaon et de démontrer qu'il est le Dieu, le vrai Dieu. Et pour ça, il a défini d'utiliser carrément la mort. Il a défini de tuer tous les premiers-nés de l'Égypte. Vous savez que dans la parole de Dieu, Dieu dit que les premiers-nés lui appartiennent. Il a dit ça depuis. Les premiers-nés sont à lui. Donc, quand tu es son ennemi, quand il dessine tes premiers-nés, c'est pour t'enlever toute assistance à toi. Donc, en décimant les premiers-nés d'Égypte, il ôte au faux Dieu de Pharaon et à Pharaon lui-même, toute une armée. C'est comme si on te vidait de ce qui pouvait être ton soutien, en gros, ta main-d'œuvre. Et il a décidé de faire cela. Mais la mort n'a pas d'amis. La mort, quand elle arrive, elle touche tout. Et c'est pour ça que dans cette mort, parce qu'il faut voir dans cette mort déjà l'œuvre de Satan, l'œuvre du mal, qui ne fait pas de distinction, il frappe. Et Dieu définit ce jour-là la protection de ceux qui sont à lui et qui lui obéissent. Dont l'instauration de la Pâque et la façon de tuer l'agneau et de tout ce qu'il fallait faire ce jour-là devait être fait par chaque membre du peuple de Dieu. Et moi, quand j'étudiais ce passage, ce qui m'a frappé et ce qui donne quand même une autre dimension au fait que l'acte de sacrifice de Jésus à la croix s'est ouvert au monde entier. Et c'est important. Parce que ce jour-là, le secret a été donné, l'instruction a été donnée au peuple de Dieu. Mais je suis certain, notamment la sœur de Pharaon qui était la mère de Moïse, s'est retrouvée sauvée. Tous ceux qui, ce jour-là, avaient compris un tout petit peu que le Dieu du peuple hébreu était le vrai Dieu et qui s'était mis sous la couverture du vrai Dieu, n'ont pas été touchés. Parce qu'il a dit que vous allez tuer l'agneau à une certaine heure et vous allez laisser couler le vider de son sang. Et avec ce sang, vous allez badigeonner les linteaux des portes de vos maisons. Badigeonner les linteaux des portes de ce maison. C'est-à-dire l'endroit par lequel les choses passent. Et quand on met le sang sur les portes des linteaux, on dit que la vie est dans le sang. C'est que vous mettez la vie sur votre maison. Et vous-même restez dans la maison et que personne ne sorte. Parce que ce qui est hors du sang de l'agneau qui est là, ne sera pas protégé. Et c'est cet acte que les enfants de Dieu ont posé. Mais je vais attirer votre attention sur une chose. Chaque maison devait faire le sien. Ça veut dire que s'il y avait des maisons têtues là qui disaient, oh, c'est quoi ça là encore, on nous casse, ils auraient été tués. Ils n'auraient pas été sous cette couverture. D'où l'importance de l'obéissance aux instructions de Dieu. Il y avait aussi que, il y avait des maisons où il y avait peut-être une personne ou deux, donc qui n'avait pas les moyens sans doute de s'acheter tout un agneau dans les conditions qu'on disait. Le Seigneur avait donné instruction que même deux ou trois maisons, dans ces conditions-là, s'ils ne sont pas nombreux, ils achètent ensemble un agneau, de façon à ce que le salut est pour tout le monde. Le salut n'est pas une question de je possède et je ne possède pas. Je suis riche, je ne suis pas riche. Je suis capable de faire ce qu'on me dit de faire ou je ne suis pas capable de faire ce qu'on me dit. Le salut de Dieu, la protection de Dieu est pour tout le monde et dans la même proportion. Amen. J'ai aussi compris que pour accomplir cette Pâque, c'est-à-dire pour être sous la protection divine, on n'intercède pas pour quelqu'un d'autre. Moïse n'a pas eu à aller supplier quelqu'un. Ou Père, oh Dieu, Père, pardonne ceux qui ne vont pas faire. Non. Accomplir sa Pâque, faire ce que Dieu demande de faire pour se mettre sous la couverture, est un engagement qui est personnel. Comme la parole nous le dit, le salut est personnel. Chacun doit aller à Christ pour être sauvé. Chacun doit le confesser lui-même pour être sauvé. L'acte est là, l'instruction est là, l'œuvre est là, mais chacun doit se blottir dessous. Si même dans une famille, il y avait un membre de la famille qui estimait que lui veut d'abord se promener et qu'il n'était pas dans la maison au moment où les choses se passaient, tant pis pour lui. Il n'était pas sous la couverture. Et il n'allait pas être protégé. Il allait être exposé à la mort. Et s'il était un premier-né d'une famille, il mourrait ce jour-là. Parce que l'instruction était claire. Et l'ascension aussi.